Bon réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La sortie du nouveau film de Roman Polanski, bousculée par de nouvelles révélations, de nouvelles accusations de viol contre le cinéaste. Promotion et avant-première ont été annulées en France et le silence des institutions grandit. Vous comprendrez pourquoi.
Dans ce journal, nous reviendrons sur le report d'une mesure sur le travail de nuit. Le gouvernement annonce finalement 6 mois de concertation.
Nous irons en Bolivie où la présidente du Sénat s'est autoproclamée présidente par intérim du pays. Les partisans d'Evo Morales crient au coup d'État dans le calme. Cette fois.
Et puis, comment et pourquoi Google travaille-t-il sur les données médicales de millions d'Américains ? Réponse dans la Silicon Valley en fin de journal.
Frédéric Saïs nous rejoindra ensuite pour son billet politique et cette question ce matin. Le macronisme peut-il être un immobilisme ? Promotion à l'arrêt et débat tous azimuts pour le nouveau film de Roman Polanski qui sort aujourd'hui en salle. Le réalisateur y fait la reconstitution de l'affaire Dreyfus sous le titre « J'accuse » alors qu'il est accusé à nouveau de viol. Le cinéaste franco-polonais, toujours sous la menace d'un emprisonnement aux États-Unis, est cité par la photographe française Valentine Monnier. Elle l'accuse de l'avoir violé il y a 44 ans quand elle avait 18 ans. Hier soir, l'une des avant-premières du nouveau film de Polanski a été annulée à Paris après l'intervention d'une quarantaine de personnes dans la salle. Pourtant, parallèlement, pour son œuvre, le cinéaste continue visiblement de bénéficier du soutien des institutions culturelles françaises. Cécile de Kervas-Doué.
Si le monde de la culture ne soutenait pas Roman Polanski, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de culture dans notre pays. Déclaration, il y a 10 ans, du ministre de la Culture Frédéric Mitterrand, alors que Roman Polanski venait d'être arrêté en Suisse pour être extradé vers les États-Unis. En 10 ans, les soutiens français du cinéaste n'ont pas faibli. En 2017, une large rétrospective à la Cinémathèque qui lui était consacrée crée pourtant la polémique, notamment parce que les témoignages de femmes se disant victimes du réalisateur s'accumulent. L'Académie des Césars, l'année suivante, qui voulait en faire son président, doit donc faire marche arrière. Pourtant, Roman Polanski va continuer de bénéficier des financements publics pour produire ses films. Il est régulièrement invité et primé par de nombreux festivals, comme cet été à la Mostra de Venise, et défendu par la plupart des grands noms du cinéma français. Sauf qu'avec ce 6e témoignage détaillé qui l'accuse de viol, le monde du cinéma français semble aujourd'hui vouloir se taire pour la première fois. Pas de pétition, pas de déclaration de personnalité. Hier, l'ARP, l'association des réalisateurs qui rassemble 200 cinéastes, dont Roman Polanski, a même fait savoir qu'elle réunirait lundi son conseil d'administration pour statuer sur une possible suspension du cinéaste. Mais elle tempère. L'exclusion est impossible tant que la justice n'a pas tranché. Du côté du Centre National du Cinéma, pas de déclaration. Le CNC ne se positionne pas sur des questions morales, dit-il. Et il renvoie la balle vers le ministère de la Culture en avançant que des assises de la diversité homme-femme au cinéma sont prévues précisément demain.
Des réactions à deux vitesses, donc on le comprend. Et en voici une preuve flagrante. Ses propos de l'actrice Karine Viard hier au micro de Thierry Fioril. Elle commence par saluer la prise de parole récente de la comédienne Adèle Haenel qui a accusé un autre réalisateur, Christophe Ruggia. Voici Karine Viard.
Je trouve qu'Adèle Haenel, elle a beaucoup de courage et elle a toute mon admiration comme actrice et toute mon admiration comme femme.
Polanski reste quelqu'un qui est adulé. Est-ce qu'on serait fort avec les faibles et faible avec les forts en France ?
Moi, je ne veux pas trop me prononcer sur Roman Polanski parce que je ne sais pas, je trouve que c'est assez délicat. Autant Weinstein, ça me semble beaucoup plus évident, autant Roman Polanski, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'en pense.
Alors comment expliquer cette tolérance au sein même du cinéma français ? Cécile de Kervas-Doué a joint Brigitte Rollet, chercheuse au Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines, spécialiste des questions de genre et de sexualité dans l'audiovisuel. Voici sa réponse.
Il y a cette espèce de tolérance comme ça, de « Ah, c'est un artiste ». L'œuvre justifie tout ce par quoi l'artiste est passé. Même si on peut estimer que c'est des comportements abusifs ou excessifs, ou etc. Donc il y a cette bienveillance avec des artistes, hommes, depuis, je dirais, le 19e, cette construction de quelqu'un qui est un peu au-dessus des lois, mais la rançon, c'est l'œuvre. Et l'œuvre justifie tout.
Et ça, c'est très français.
Comme ça. Ben, j'ai l'impression, quand même, dans un contexte où on cantonne un petit peu les femmes à des... c'est cette phrase qu'on prête à Truffaut alors qu'elle n'est pas de lui, faire des jolies choses à des jolies femmes. Ça, c'est un contexte qui n'aide pas justement à sortir de ce mythe de l'artiste qui peut tout faire. Parce que justement, c'est un artiste. Comme une espèce d'exutoire, il y a un besoin de maintenir un petit peu cette figure de l'artiste hors des règles et des normes.
Ce mercredi, le nouveau film de Roman Polanski sort donc en salle dans 545 salles de cinéma en France. Elle devait être présentée en Conseil des ministres ce matin. La mesure est finalement remise à une concertation de 6 mois. Le travail de nuit ne sera pas modifié pour l'instant par le gouvernement qui temporise, qui recule, c'est selon, face aux crispations entre syndicats et patronats. L'exécutif envisageait en fait de permettre aux commerces alimentaires de contourner la règle du travail de nuit, Stéphane Robert.
La mesure prévoit d'étendre aux commerces alimentaires l'autorisation de faire travailler leurs employés jusqu'à minuit au lieu de 21h aujourd'hui. Actuellement, un salarié bénéficie d'une rémunération spécifique au titre des heures de nuit entre 21h et 7h du matin et il faut que ce soit justifié par une nécessité économique ou sociale. Une autorisation jusqu'à minuit pour les commerces alimentaires permettrait, selon le ministère du Travail, de mieux répondre aux usages de la consommation d'aujourd'hui. À l'origine, cette disposition faisait partie de la loi Pacte, votée en avril dernier, mais elle avait été retoquée par le Conseil constitutionnel au motif que c'était un cavalier législatif introduit dans la loi et qui n'avait rien à faire là. Cette fois, elle fait les frais de désaccords entre organisations syndicales et patronales. C'est naturel, explique-t-on au ministère de l'économie. Il faut négocier les compensations, on l'a toujours dit. Les syndicats sont dans le mieux disant, le patronat dans le moins disant. Il faut donc discuter et ça va prendre du temps. En tout cas, Bercy assure que cette décision de mener une concertation pendant 6 mois n'a rien à voir avec la contestation qui gronde et qui monte contre la réforme des retraites et la crainte d'un embrasement social avec la journée de grève interprofessionnelle programmée le 5 décembre prochain.
Eux prévoient une mobilisation nationale demain, jeudi. Les personnels hospitaliers qui attendent toujours de connaître les nouvelles mesures en leur faveur. Pour marquer leur mécontentement à ce propos également, hier soir, les sénateurs ont bloqué pendant plusieurs heures le débat sur le budget de la sécurité sociale. Ils jugent le texte obsolète, insincère. Avant de connaître donc les mesures, les nouvelles mesures en faveur de l'hôpital français, elles sont attendues dans le mois qui vient. L'un des chefs les plus influents de ce qui était l'organisation indépendantiste basque, l'ETA, sera-t-il remis à l'Espagne? La justice française se penche aujourd'hui sur les demandes d'extradition 6 mois après son arrestation et après 16 ans de cavale. Sa situation juridique est devenue extrêmement complexe, Florence Turme.
Après son arrestation, Josu Urrutikoetxea est d'abord placé en détention le temps d'être rejugé dans 2 affaires pour lesquelles il avait été condamné en France durant sa clandestinité. Âgé de 69 ans, il est malade et la cour d'appel accepte sa demande de mise en liberté. Mais les services de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, l'interpellent à nouveau à sa sortie de prison. On lui notifie alors 2 demandes d'extradition et un mandat d'arrêt européen présenté par l'Espagne. Demande strictement politique, estime son avocat Laurent Pasquet-Marinach.
Ce sont des motivations d'abord et même exclusivement politiques, ce que d'ailleurs les autorités espagnoles assument parfaitement, puisque lorsqu'il a été interpellé, les autorités espagnoles et notamment les responsables de la Guardia Civil ont, lors d'une conférence de presse, expressément indiqué qu'il était réclamé en raison du rôle politique qu'il avait joué dans le désarmement de l'ETA et la dissolution de cette organisation.
La demande d'extradition présentée par Madrid porte aussi sur un attentat commis à Saragosse en 1987, 11 morts, dont 4 enfants, et l'assassinat d'un cadre du groupe Michelin en Espagne en 1980. 2 actions auxquelles Josu Urrutikoetxea nie avoir participé et qui, selon sa défense, sont désormais prescrites. Son fils insiste aussi sur le rôle qu'a pu jouer son père dans la fin du conflit basque. Au-delà des aspects judiciaires, son cas continue de cristalliser les antagonismes. En témoignent 2 tribunes récentes rédigées par des intellectuels français et espagnols, violemment opposées entre ceux qui considèrent son arrestation comme un coup porté au processus de paix et ceux qui y voient une négation du terrorisme et de la mémoire des victimes.
Et en ce 13 novembre, nous nous souvenons particulièrement des victimes des attentats à Paris et à Saint-Denis. C'était il y a 4 ans, jour pour jour. 131 personnes étaient tuées par un commando de terroristes islamistes, près de 400 blessés, plus 1 millier de traumatisés. Pour ceux qui restent, cette journée de commémoration est importante. Denis Péchanski, directeur de recherche au CNRS et responsable du programme 13 novembre, nous explique pourquoi.
La mémoire collective a un rôle important dans le traumatisme parce que quand on est victime d'un attentat et que cet attentat n'est plus dans la mémoire ou s'estompe, c'est la double peine. C'est là le défi, me semble-t-il, de toutes les commémorations et aussi de la prise en charge politique de la mémoire, une mémorialisation officielle, de prendre conscience de ces phénomènes normaux, classiques, c'est-à-dire de tri, d'oubli. Toute mémoire s'accompagne d'oubli et de tri. On ne garde que ce qui sert à comprendre l'événement, Le reste est évacué année après année. Le problème, c'est que ce tri-là se fait au détriment de ceux qui sont mis sur le bas-côté de la mémoire collective. Le vrai danger, c'est de s'enfermer dans le ressassement. Donc, tout ce qui participe au ressassement doit être condamné. Tout ce qui participe à la remémoration à distance et à l'hommage public doit être encouragé.
Ce matin à Paris, une cérémonie se déroulera dans la matinée, donc devant les plaques commémoratives dévoilées en 2016. Nous retrouvons sur France Culture le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve. Votre invité, Guillaume, ce sera après ce journal.
8h10 sur France Culture, la suite de votre journal, Clara Lecoq-Réal en Bolivie. La présidente du Sénat prend la présidence du pays par intérim.
Oui, Jeanine Agnès, 52 ans, a fait cette annonce hier soir devant les parlementaires. Elle invoque une clause constitutionnelle qui stipule qu'il lui revient d'assurer l'intérim après les démissions du président et du vice-président. Le président démissionnaire de Bolivie, Evo Morales, dénonce lui le coup d'État le plus sournois et désastreux de l'histoire. Il a trouvé hier l'asile politique au Mexique voisin. Et depuis son départ, ses partisans socialistes descendent dans les rues de La Paz, violemment d'abord, puis pacifiquement hier. C'est un reportage d'Alice Campagnol.
Les partisans d'Evo Morales s'étaient réunis hier dans le centre-ville de La Paz pour exprimer leur colère face à ce qu'ils appellent un coup d'État. Leur dirigeant a été forcé par la rue à démissionner, lui qui avait été élu démocratiquement en 2014 avec plus de 60% des suffrages. Aujourd'hui, les soutiens de l'ancien président, souvent humbles et majoritairement d'origine indigène, se sentent plus seuls que jamais.
Sincèrement, il faut qu'ils nous représentent nous.
Sincèrement, il n'y a personne pour nous représenter. La voix du peuple est partie. Celui qui nous a toujours représentés n'est plus là auprès de nous. Il n'y a personne. Qui va dire notre vérité ?
Le regroupement était pacifique après les violences qu'a vécu La Paz pendant 2 jours. Violences commises par des groupes qui soutiennent aussi l'ancien président venu semer la terreur dans la ville. Mais les manifestants aujourd'hui voulaient montrer un autre visage des mouvements indigènes et paysans. Ils sont descendus dans la rue avec des demandes précises.
Ce que nous voulons, c'est un gouvernement neutre et provisoire. Et si cette Agnès veut être présidente, on ne va pas l'accepter.
Mais c'est bien Jeanine Agnès du parti Unité Nationale de l'opposition qui s'est déclarée présidente par intérim de la Bolivie hier soir. Et la nouvelle occupante du fauteuil présidentiel n'a pas l'appui des parlementaires du MAS, le parti d'Evo Morales, ni de ses militants.
C'était notre correspondante Alice Campagnol. Je précise que le bilan des violences post-électorales en Bolivie est revu à 7 morts. Nous évoquions hier ici même les tensions entre Israël et la bande de Gaza après l'assaut contre le groupe armé djihad islamique. Ce matin, 2 Palestiniens ont été tués dans des frappes israéliennes, ce qui porte à 12 le nombre de morts à Gaza depuis hier. Partons maintenant aux États-Unis où Google pourrait récupérer les données médicales de 50 millions d'Américains. Le géant de la Silicon Valley a en fait passé un accord avec un grand groupe hospitalier outre-Atlantique, un projet appelé Rossignol en français. Mais ni les patients ni les médecins ne seraient au courant, Loïc Piala.
Environ 150 employés de Google auraient accès aux noms, prénoms et dates de naissance de millions de patients, mais aussi à leurs analyses de sang, au diagnostic de leurs médecins ou à l'historique de leurs hospitalisations. Des données récupérées auprès du groupe Ascension, qui gère 2600 hôpitaux, cliniques et cabinets médicaux à travers une 20aine d'États américains. Google espère ainsi nourrir l'intelligence artificielle d'un logiciel capable d'analyser le traitement des patients et de suggérer des changements. Le but est d'améliorer les résultats, réduire les coûts et sauver des vies, explique un dirigeant de la firme californienne. Ce transfert de données est autorisé par la loi américaine, mais à condition qu'il reste dans un cadre médical. Et même chez Ascension, des employés semblent inquiets de l'exploitation que Google pourrait faire de ces données ou du risque de piratage, comme on en a observé ces dernières années. Au-delà des critiques sur son manque de transparence, le projet Nightingale témoigne des ambitions du géant de la Silicon Valley sur le marché de la santé, un marché estimé à 3 000 milliards de dollars par an rien qu'aux États-Unis. Google a récemment acquis Fitbit, le fabricant de bracelets connectés. Apple, Microsoft et Amazon cherchent aussi à se faire une place dans le secteur.
Les États-Unis encore, où l'enquête pour enclencher une procédure de destitution contre Donald Trump deviendra publique aujourd'hui. Les auditions filmées débutent cet après-midi. Terminons ce journal avec les mots de Charles Baudelaire. Des mots tout nouveaux que vous n'aviez jamais lus. Une strophe inédite des Fleurs du Mal, écrite par le poète dans un recueil de 1857, a été retrouvée il y a peu dans la petite bibliothèque d'un appartement parisien. Et voici donc ces 4 lignes. Et je fus plein alors de cette vérité que le meilleur trésor que Dieu garde au génie est de connaître à fond la terrestre beauté pour en faire jaillir le rythme et l'harmonie. C'est signé Charles Baudelaire. L'ouvrage sera vendu aux enchères le 22 novembre. Une petite histoire à retrouver sur notre site franceculture.fr. De la grisaille et de la brume, il n'y a rien de poétique aujourd'hui dans la météo qui nous attend pour ce mercredi. Près de la côte atlantique et des frontières du nord et de l'est, des averses sont prévues. Les températures, elles, restent fraîches. 6 degrés à Clermont-Ferrand ce matin, 7 à Strasbourg, 8 degrés à Lille, 10 à Paris et Nantes et 16 degrés ce matin à Nice.